Session Les Trois Sagesses par le Père Marie-Dominique Philippe, le 6 septembre 1998 à Saint-Jodard.
Question. Deux questions. Je vous rappelle, n'hésitez jamais de poser vos questions. C'est difficile de les poser pendant le cours. Parce que les autres, souvent, bâtissent. Alors, il vaut mieux laisser le développement du cours, puis vous écrivez. Puis l'avantage d'écrire, c'est que ça oblige de préciser sa pensée. Alors, on voit en écrivant que c'est bien de le poser, que c'est pas la peine de le poser. Quelle différence y a-t-il entre un philosophe et un professeur de philosophie? Où on est professeur de philosophie. Très souvent, aujourd'hui, un professeur de philosophie doit être quelqu'un qui est spécialiste d'un philosophe. J'ai très bien compris que, à Fribourg, par exemple, du fait que je connaissais un peu Aristote. Je dis un peu, parce que Aristote, c'est un monde. Mais je connais Aristote parce que j'ai quand même beaucoup travaillé. J'ai presque tout lu, je crois. Tout n'a pas la même valeur. Les parties des animaux, on va assez vite. Tenez. Parce que c'est vrai, c'est très intéressant pour les gymnastiques, mais... comprendre ce que c'est que... Vous savez, le saut de mouton. En français, ça dit quelque chose, le saut de mouton. Vous faites le mouton, puis on saute au-dessus de tout ça. Tu vois. Alors ça, c'est une partie des animaux. Ordinairement, aujourd'hui, on demande à un philosophe d'être un spécialiste. C'est grâce à ma connaissance d'Aristote que, de fait, on peut donner autre chose. Je crois qu'on doit toujours avoir un philosophe. Vous voyez, en Sorbonne, c'est très difficile de faire une thèse de philosophie. On fait la thèse d'un philosophe. C'est l'histoire. Pour le savoir, il vaut mieux faire ça. C'est plus vite fait, c'est mieux. Et c'est, je crois que ça aide. Pour Aristote, cela ferait partie de la topique. Ce qu'il appelle la dialectique. La topique. Aristote connaît parfaitement à sa manière. Parce que si on dit qu'Aristote connaît parfaitement les philosophes qui étaient avant lui, on dit « Oh non, il les voit dans son point de vue. » Moi, c'est ce que j'appelle bien voir un philosophe pour Aristote. Parce qu'il se sert d'eux pour avancer et aller plus loin dans la vérité. Ce que j'appelle une topique historique. Alors, pour nous, la topique historique, c'est énorme. Mais j'ai voulu quand même faire une topique historique de ce qu'on m'avait demandé d'enseigner spécialement à Fribourg. L'intelligence humaine est-elle capable d'atteindre l'existence de Dieu? Et ça, c'est très intéressant de faire une topique historique par là. Parce que vous faites la topique historique par le sommet de la philosophie. Et ça éclaire tout. Sommet. Oui, quand vous voulez comprendre un philosophe, voyez jusqu'où il est allé. C'est toujours très intéressant, le terme de son itinéraire. Or, voir comment les philosophes rejettent la recherche de l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu. Le mot Dieu n'est pas philosophique, c'est-à-dire n'est pas inventé par les philosophes. Il vient des traditions religieuses. Mais quelqu'un comme Heidegger, donc un philosophe quand même, qui s'intéresse à l'être et qui est tout proche de nous, il n'y a pas très longtemps qu'il est mort. Heidegger s'intéresse toujours de voir si un terme a été découvert par les philosophes. Le mot substance, c'est un terme typiquement philosophique. Le mot acte aussi. Le mot nature, moins déjà. Le mot Dieu, le mot âme, viennent des traditions religieuses. C'est une petite remarque de topic historique pour moi, ça. C'est intéressant. Voici, c'est un philosophe qui a inventé le mot to ti en einein. Quid ditas, quid dite. C'est la philosophie. Lisez Homère, vous ne trouverez pas quid dite. Lisez Sartre, vous trouvez quid dite. D'Aristote à Sartre. Lisez la scolastique, Thomas d'Aquin, vous trouvez quid dite. Il n'y a pas beaucoup de mots. Vous voyez, commun, commun, pas quant à les significations, mais commun, comme mot, à Thomas d'Aquin et Sartre. Et vous pouvez dire que constamment, ce sont des mots philosophiques. Le mot personne est-il un mot philosophique ou de tradition religieuse? C'est intéressant de se poser la question. Le mot persona, le mot grec, était employé au point de départ pour désigner le masque de celui qui jouait la comédie. La tragédie, le masque. Vous prenez un masque de lion pour exprimer que vous jouez le rôle du lion. C'est ce que les Grecs faisaient, ça. Alors c'était prosopone. Prosopone, personne. Puis petit à petit, c'est devenu personne au point de vue métaphysique. Mais c'est très intéressant l'histoire des mots. Mais c'est pas de la philosophie, c'est de la linguistique. Mais ça aide, c'est intéressant de voir ça. Il y en a qui sont extrêmement curieux, vous savez. Qui passent d'un mot tout à fait banal à un mot hypostasis. Hypostase. Chez Plotin, c'est les trois grandes hypostases, c'est la Trinité. Second siècle après Jésus-Christ, Aristote, au début, hypostasis. Hypo, ce qui est en dessous, stasis, ce qui demeure en dessous. Alors comme il était fils de médecin, il dit le dépôt de l'urine. C'est extraordinaire. Vous voyez, le langage, hypostase, est devenu un mot tout proche de la personne. Hypostase, quand ça demande pour hypostase, il aurait le premier mot. Et c'est très curieux, ça. C'est une manière d'entrer dans la philosophie. C'est une porte d'entrée. Une petite porte. Il faut des clés. Une petite porte, mais intéressante. Parce que le langage, c'est la communication. Je vous parle. Normalement, avant de vous parler, j'ai pensé. Pas toujours. Il y a des gens qui parlent pour penser. Et c'est pour ça que quand on leur demande de garder le silence, ils ne pensent plus. Ça s'arrête. Normalement, on pense avant de parler. Et la parole, c'est la communication. Je peux penser quand même sans parler. Heureusement, du reste pour mon voisin. J'étais toujours obligé de parler pour penser, ça n'irait pas. Mais certains, au début, sont comme ça. Oui, c'est comme quand vous faites un voyage, que vous êtes seul et que vous avez peur. Alors vous vous mettez à chanter. Ça vous aide. C'est un réconfort. Et beaucoup sont comme ça. La liturgie leur permet de prier. Or, normalement, on prie avant la liturgie. Et pour certains, il faut chanter. Il faut chanter, ça aide. C'est vrai que ça aide. Mais, normalement, la prière est intérieure. Puisqu'elle s'adresse à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de notre parole pour savoir ce qu'on dit. Il le voit directement. Rien n'est caché à Dieu. Même toutes les bêtises de votre imagination. Alors, quelle différence y a-t-il entre un philosophe et un professeur de philosophie? Un professeur de philosophie, il enseigne dans le sens de l'université où il se trouve. Je vous ai dit, au milieu de l'année, une fois, en faisant un cours, je vois maintenant la différence entre le point de vue de l'enseignement monastique de l'enseignement universitaire. Ce que nous faisons ici, c'est un enseignement monastique. Tous ne sont pas des moines, tous ne sont pas des religieuses. Mais je vous ai déjà dit, je fais le cours en premier lieu pour mes frères, en second lieu pour mes sœurs. Ça ne veut pas dire que je fais deux cours différents, je fais le même. Et ceux qui sont devant moi en premier lieu. Là, je ne fais pas tourner les six premiers mois et puis après les sœurs. Pour qu'on ait non. C'est comme ça. Parce que je dois, l'Église me le demande, faire des cours pour mes frères. Pour les sœurs, c'est gratuit et facultatif. Recevoir. les aime moins, c'est pas la question. Mais je ne fais pas le cours pour eux. Si un jour, eux me disent une question philosophique qui nous intéresserait, est-ce qu'on pourrait avoir un cours spécial pour nous? C'est pas exclu, ça. Je dirais passer par le doyen de la faculté, le père Marie-Dominique Gouthière, pour organiser ça, si c'est possible. Voyez la différence. Autrement dit, en prenant, c'est très analogique ce que je dis là maintenant. Il y a une femme dans la fontaine. Quand vous voulez vous reposer un peu, relisez les fables de la fontaine. C'est merveilleux. C'est intelligent et très fin. La fable de la fontaine sur le loup et le chien. Je dirais le professeur de philosophie, c'est le loup, c'est le chien. Et le philosophe, c'est le loup. Le loup est maigre. Ça ne veut pas dire que tous les philosophes doivent être maigres. C'est pas vrai, ça. Le chien est dodu. Et le loup le regarde. Tiens, tiens, qu'est-ce que tu as au cou? Un collier. Le loup n'a pas de collier. C'est la définition du loup. Il est vagabond. Il cherche. Le chien, on lui sert sa pitance. Il est dépendant du cuisinier. Tandis que le loup n'est pas dépendant du cuisinier. Le professeur de philosophie est dépendant de ses étudiants. Le philosophe, non. Ah, si on demande à un philosophe de faire des cours de philosophie, alors c'est un devoir. Toi, essayer de s'adapter pour parler autant qu'il peut un langage que les étudiants comprennent. Le philosophe n'a pas à s'adapter. C'est le loup. Et c'est vrai, c'est ça l'exigence du philosophe. C'est que le philosophe, il est libre, mais il est tenu par la recherche de la vérité. Et l'exigence de la vérité le saisit et le prend. Et il doit être sincère dans son cours de philosophie. Un philosophe qui fait un cours de philosophie, fait un cours de philosophie sur Bergson, sur Heidegger. Bon, il expose la pensée d'Heidegger. Il peut très bien, s'il est philosophe. Mais vous voyez, là, il s'est trompé. Et un cours de philosophie ne demande pas nécessairement ça. Ça, c'est le philosophe. Le cours de philosophie sur Hegel demande d'exposer la pensée de Hegel. L'évolution de sa pensée, tout ce qu'il a écrit. C'est la même chose sur saint Thomas. On peut faire un cours sur saint Thomas d'une manière historique. Gilson, Étienne Gilson, faisait ça. Très bien, admirablement, parce qu'il aimait saint Thomas. Mais, de temps en temps, celui qui connaissait saint Thomas comme théologien et comme celui qui avait quitté Avicenne pour s'inspirer de Aristote pouvait dire à Gilson, ce que vous dites là n'est pas tout à fait juste. Historiquement, c'est peut-être bien. Mais, en réalité, c'est pas juste. Mais je prends un cas très particulier, c'est à l'égard du DNT Saintia. Le DNT Saintia est un petit livre. Ça demanderait d'être traduit. Parce qu'il est mal traduit. Ça demandait d'être traduit. Difficile à traduire, mais c'est intéressant. Parce que ça m'a été tout jeune. Alors, Étienne Gilson, en regardant ça, a dit, oh, mais c'est admirable. Il a découvert le génie de Thomas Lacan, là. Il a dit, c'est là En réalité, c'est un essai philosophique qui est plus critique que philosophique, que métaphysique. Et ils sont, au point de vue historique, ils trouvent le DNT Saint-Cia est très intéressant. Chercher la certitude, c'est d'ordre moral. C'est pas d'ordre philosophique. C'est pas d'ordre scientifique. Pourquoi la philosophie ? Alors je dirais, pour nous, c'est-à-dire pour Saint-Jean, recherche plus la vérité, qui est au-delà de la morale. veut se purifier pour ne pas confondre sincérité et recherche de la vérité, qui ne veut pas faire d'amalgame, qui veut une intelligence capable de chercher son bien propre pour qu'elle soit capable de recevoir l'influence directe de Dieu par le point de vue de la foi. Voyez, je n'ordonne pas ma philosophie à la théologie. Recherche de la vérité, plus exactement même à la recherche sans mettre de la vérité. Pour lui, le philosophe, c'est le chercheur. Aime de distinguer ce qui a été touché par les hommes et ce qui lui est donné par la nature. Il distinguera toujours les deux. Et Merleau-Ponty, à la fin de sa vie, fait cette distinction. Alors qu'au début, il ne l'a pas fait. Vous savez, le petit chien de salon et le chien libre. Sauvage, très proche du loup. Le petit chien de salon, il n'a pas seulement un collier, il a aussi une petite étoffe sur le dos quand il fait froid. C'est pas la même chose. Ça, c'est plus être sauvage. Éveiller mon intelligence, la réveiller, secoué pour la recherche de la vérité. C'est le plus grand bien spirituel que je puis acquérir par moi-même. Et uniquement ça, ça vaudrait. Je vis la philosophie en de la sagesse acquise philosophique. Et c'est parce que la philosophie est capable, par elle-même, d'atteindre l'existence de Dieu. Parce qu'elle est capable de parler de Dieu. Parce qu'elle est capable de juger dans la lumière du Créateur. Que la philosophie a son autonomie. Et elle augmente mon autonomie. C'est bien évident. Et donc, elle augmente pour moi le mérite de l'obéissance divine. Je vois mieux, en tant que philosophe, les domaines où je dois obéir. Connaissez très bien. si j'ai tellement de peine à croire à l'existence de Dieu, c'est que si Dieu existe, il est bon. Et j'ai tellement entendu dans ma jeunesse, dans un milieu qui n'était pas croyant, qu'il y avait des oppositions entre la science et la philosophie, et entre la science et la foi. On n'a pas montré avec assez netteté que la science ne pouvait pas tout dire de l'homme, qu'il fallait autre chose, une sagesse. Ça, c'est très important. Troisièmement, la philosophie va me permettre, pour moi, de comprendre Thomas d'Aquin. Ce qui, pour un frère de Saint-Jean, est nécessaire. C'est pas facultatif. C'est nécessaire. C'est le docteur commun. Donc voilà. En gros, être intelligent, c'est au-delà de la catégorie de l'utilité. À Fribourg, il y avait toujours un étudiant malin et en même temps critique qui, au début de l'année scolaire, envoyait sur une feuille « Vous suivez les cours de philosophie ». À quoi ça vous sert? Et le professeur de philosophie recevait par la voie indirecte, comme pour les billards, ce coup envoyé à l'étudiant. Et qui retombait ce professeur? Vos cours de philosophie, à quoi ça sert? Est-ce que c'est un jeu? Ou est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que vous faites ça pour passer des examens? Vous faites ça pour éduquer? Alors je commençais toujours par dire, la catégorie utile est en dehors de la philosophie. C'est la catégorie prudentielle. Est-ce que c'est utile de prendre une auto pour aller à Lyon? Ou est-ce que je peux y aller en bicyclette? Est-ce que je peux y aller à pied? Catégorie utile. C'est très important de comprendre ça. C'est pas une catégorie philosophique. Utilité, une chose très utile, peut-être bête. Quelque chose qui n'est plus une catégorie, la vérité, c'est le qu'est la personne humaine. C'est très important pour nous, pour dépasser la psychologie, pour dépasser les sciences politiques. La philosophie est nécessaire pour découvrir ce qu'est la personne humaine. Vous voyez, on peut dire, d'une certaine manière, que toute philosophie réaliste se noue autour de l'homme et d'une anthropologie. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que je peux dire de l'homme? Vous voyez, c'est particulièrement important parce que je suis à moi-même la matière que j'étudie. Le philosophe, s'il est un vrai philosophe réaliste, va avoir constamment son expérience pour lui. Je réfléchis sur mes hésitations. C'est très bon pour en avoir moins. Je réfléchis sur la passion. Pourquoi suis-je passionné? Qu'est-ce que c'est? Cette irascible qui est en moi et qui court. Et que de temps en temps je me mets en colère pour des choses inutiles. Comment se fait-il que l'irascible est concupiscible pour tuer? L'imagination. Ne pas laisser le domaine imaginaire seulement à Freud ou aux psychanalystes. Avoir des discussions avec des psychanalystes sur l'imagination au plan philosophique. C'est très important. Des psychanalystes qui le veulent bien. Qui sont ouverts à la philosophie et qui s'intéressent à la philosophie. Oui. Je dois chercher ce que représente l'homme, la vérité sur l'homme, sur son être et sur sa vie. L'homme a un être. Même quand vous dormez, ce n'est pas un autre être. C'est Pierre qui dort. C'est Arthur qui dort. Et Pierre ne devient pas Arthur parce qu'il dort. Non. L'unité de notre être, de notre personne humaine, n'avons qu'une seule personne. Non, pas deux personnes. L'unité de notre être. Et notre être, est-ce que nous pouvons le grandir? C'est un donné. Et vous regardez l'être de votre voisin, vous dites, oh, c'est bien dommage d'être pas comme lui. Ou bien vous faites l'inverse. Ce qui arrive souvent. Grâce à Dieu, je ne suis pas comme mon voisin. J'ai un être distinct. Et si je suis charitable, je ne le dis pas. Parce que vous avez toujours raison de dire que votre être est distinct de celui du voisin. Nous sommes original dans notre être. Et nous sommes uniques. Si vous disparaissez, c'est quelqu'un qui disparaît du patrimoine humain terrestre. Pour un croyant, un être et vous avez des degrés de vie. Vie végétative. Le propre du vivant, c'est de pouvoir dormir. La nature physique ne dort jamais. Pas de repos. Dans la nature physique, le vivant se repose. Et c'est pour ça que nous vivons un rite aujourd'hui qui n'est plus celui des vivants. On essaie de faire que une usine puisse marcher. Vous ne pouvez pas définir votre vie végétative par votre repos, mais cela fait partie essentielle de votre vie végétative. Vous n'avez pas le droit de dire « moi, je ne me repose pas ». Ça ne durera pas très longtemps. Et vous perdrez l'équilibre au bout d'un certain temps. Ça s'est arrêté. Pourquoi ? Vous ne l'avez pas voulu. Mais quelquefois, ça ne s'arrête jamais. J'ai vu quelqu'un comme ça. J'étais très inquiet, je comprends. Les portes étaient trop petites. Et les toutes venaient. à la racine de l'erreur de l'ontologisme. Mais ça, en tant que croyant, vous ne faites pas. Et là, pour comprendre bien ce que c'est qu'une anthropologie, il faut regarder ça. Qu'est-ce que c'est que la mort ? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ?